Nous allons nous entretenir ce matin du prince de la vie à travers un récit du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Voilà déjà l'événement. L'événement. Avec un homme qui est dans l'attente, qui attend bien plus que ce qu'il semble demander, puisqu'il est dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il les regardait attentivement. Et eux aussi le regardaient. Il y a à ce moment-là un échange profond. Il y a une attention de l'un envers l'autre, les apôtres envers cet homme qui est là à faire l'aumône. Et le miracle se produit. Alors c'est un événement rapporté sans contestation possible. C'est le début de la prédication de l'Évangile. C'est l'histoire qui se déroule ainsi. Il y a un homme handicapé qui est en train de faire l'aumône. C'est une situation courante dans l'Antiquité, comme maintenant de toute façon. Et il y a une intervention de la puissance de Dieu qui est rapportée. J'aime l'Écriture parce qu'elle rapporte les faits. Elle dit ce qui s'est passé, que ce soit dans l'Évangile, que ce soit dans les Actes des Apôtres. C'est de l'histoire pure et simple. C'est le récit. Et nous apprenons à travers ce récit qui est Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il désire pour nous. Et quand nous sommes dans une attente véritable, une attente profonde, il vient nous rejoindre et nous apporter bien plus que ce que nous attendons. Cet homme attend quelques pièces d'argent et il reçoit une vie nouvelle dans son corps. Alors nous continuons. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alors il y a une explication à cet événement qui est donné par l'apôtre, cet homme qui vient de pouvoir à nouveau marcher, pas seulement marcher d'ailleurs, sauter également. Il y a une explication, c'est que tout simplement Dieu a glorifié son serviteur Jésus. L'action a été faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme. C'est la foi en lui qui a donné entière guérison. Dieu vient de glorifier Jésus-Christ à travers cet événement. Mais bien plus que cela, cet événement s'inscrit sur le fond d'un autre événement par lequel Dieu a glorifié son serviteur, c'est sa résurrection d'entre les morts. Alors le contexte, eh bien, c'est que les Israélites étaient fautifs envers Dieu et Christ. Et les paroles sont dures, hein, « Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, vous avez renié le saint et le juste ». Vous avez fait mourir le prince de la vie. Grande culpabilité, grande responsabilité du peuple. Mais la suite, c'est que Dieu l'a ressuscité et que maintenant il agit en grâce au milieu de vous. Dieu est toujours là à l'œuvre au milieu de vous, à faire grâce alors que vous avez renié, alors que vous avez fait mourir le prince de la vie. Et nous avons ici la grandeur du message de l'Évangile. C'est que Dieu n'a pas abandonné son projet. Dieu est amour. Jésus-Christ vous a été destiné, rappelle l'apôtre Pierre. Vous êtes les fils des prophètes. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. C'était la volonté de Dieu de bénir, de faire du bien à ce peuple, et malgré le rejet, il continue de le faire. Ce qui a été fait à Christ, c'est à cause du péché. Et Dieu l'avait prévu, mais il avait surtout prévu de glorifier le prince de la vie afin de lui confier l'avenir de la vie. C'est pourquoi rien n'est perdu à la condition de la repentance. Vous avez agi par ignorance, précise Pierre. et non seulement vous, le peuple, ainsi, mais aussi vos chefs, ainsi que vos chefs, eux aussi ont agi par ignorance. L'homme naturel, surtout lorsque la loi est passée par là, ignore la puissance de la miséricorde divine. Il ne reçoit pas la vie de Dieu. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Ces choses étaient cachées aux yeux de Jérusalem. En voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, disait-il également, alors qu'il s'exprimait en parabole. Et sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Paul le confessera pour lui-même. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la résultante de l'ignorance persistante de celui qui sait, il sait beaucoup de choses et peut-être croit-il tout savoir, mais il lui manque l'essentiel. Il lui manque de connaître Dieu véritablement. La connaissance que ce soit la connaissance pour les Juifs de toute la loi de Dieu, tout ce que Dieu avait enseigné par la loi. La connaissance peut faire obstacle à la véritable révélation de Dieu. Nous sommes dans une période, un temps de particulièrement de science et de connaissance. Et beaucoup ne peuvent plus même concevoir et recevoir ce qui vient de Dieu, tellement il se fie à ce que la science et la connaissance des hommes a développé concernant plein d'aspects de la vie, du fonctionnement de l'être humain, que ce soit physique, matériel, morale encore, ils ont un peu de mal, mais psychologique, psychique. Il y a une connaissance qui se développe et l'homme est toujours à la recherche de la connaissance pour comprendre l'être humain, pour comprendre la vie. Mais il reste incrédule, ignorant véritablement de Dieu. Il est très difficile, comme Jésus disait, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est très difficile à un connaissant d'entrer, de recevoir la connaissance de Dieu. Mais voilà que Dieu a quelque chose à nous faire connaître qui est très précis, qui ne vient pas de notre cœur, mais qu'il a en réserve dans son cœur depuis l'éternité. Il veut nous faire connaître qu'il efface nos péchés, qu'il détourne chacun de nous, qu'il veut détourner chacun de nous de ses iniquités. C'est ce qui apparaît dans ce texte. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dieu a envoyé son Fils pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est la puissance que Dieu veut développer dans nos vies, sur nous, en nous. Et dans cet épisode, Pierre et Jean sont, suite à cette prédication, mis en prison et confrontés aux chefs religieux. Mais il est dit, 4 verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » C'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils étaient là à enseigner le peuple. Ils étaient sans instruction, mais ils avaient eu ce privilège d'être avec Jésus. Ils les reconnurent comme ayant été avec Jésus. Et c'est ça qui fait toute la différence. Avoir été avec Jésus, ça c'est le top de la connaissance. Et pourquoi ? Parce que Jésus n'enseigne pas seulement des concepts, une philosophie, des principes. Jésus enseigne l'amour de Dieu. Jésus était là à enseigner et manifester l'amour de Dieu. Et eux, ils étaient avec Jésus. Et maintenant, ils pouvaient enseigner. Ils pouvaient enseigner quoi ? Ils pouvaient enseigner, non pas tout développer comme l'apôtre dit, commencer à raisonner avec les hommes. Ils étaient là à enseigner la grâce de Dieu. Ils étaient là à enseigner le pardon des péchés. Ils étaient là à enseigner la puissance de l'Évangile pour celui qui croit. Et ils étaient surtout, et avant tout, les témoins de la résurrection du Christ. Lorsque Pierre a été, avant la Pentecôte, qu'ils étaient réunis environ 120, Pierre s'est levé et a dit, voilà, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue que tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. C'était le but, qu'il soit l'équipe complète, les 12, à être témoin de la résurrection de Jésus. Et constamment, dans le livre des Actes des Apôtres, revient cette formule, il rendait avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. C'était ça leur principale mission, leur raison d'être, c'était de rendre témoignage à la résurrection de Jésus. Ils rendaient témoignage au prince de la vie. Dans son Christ, Dieu a triomphé du péché de l'homme. C'est pourquoi il a pu le ressusciter. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est ce qui est le premier message de Pierre à la Pentecôte. Voilà ce que toi, tu as à savoir et à croire. Dieu l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Et dans ce premier message de Pierre, il y a aussi au verset 28, justement, cette citation du psaume 16 qui se termine par « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Le psaume 16 était un psaume messianique qui annonçait la résurrection de Jésus et qui se conclut par cette affirmation « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Et les sentiers de la vie que le Seigneur a fait connaître à son Christ, ce sont des sentiers que personne n'avait jamais parcourus. Ce sont des sentiers ignorés des hommes, les sentiers qui mènent à Dieu, les sentiers de l'éternité. Alors, Jésus-Christ est ressuscité et il n'y a plus pour lui que les sentiers de la vie. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, dira l'apôtre dans l'Épître aux Romains. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit maintenant. Alors oui, tu me rempliras de joie par ta présence. Le Seigneur se réjouit de la présence de Dieu maintenant, dans la présence de Dieu. Il parcourt les sentiers de la vie. Et bien sûr, c'est là qu'il veut nous amener, nous aussi. Il veut nous amener dans les sentiers de la vie. Il veut nous faire à nous aussi parcourir les sentiers de la vie. Voulez-vous parcourir les sentiers de la vie avec Jésus vivant pour Dieu ? C'est possible, puisque l'apôtre, dans cet épître aux Romains, dira « Il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Oui, nous aussi, lorsque nous passons par la repentance, que nous croyons en ce Christ mort pour nous et ressuscité par la justice de Dieu, eh bien, nous aussi, nous pouvons passer de la mort à la vie. Celui qui croit en moi, dit Jésus, déjà dans l'Évangile, est passé de la mort à la vie. Bon, ça me fait penser à... De temps en temps, ça me revient, cette image-là. Quelques années en arrière, là, il y avait un feuilleton, je n'ai pas beaucoup de références de la télévision, mais ce feuilleton, ça s'appelle « L'homme qui tombe à pic », pour ceux qui ont un petit peu de... Et alors, en fait, dans l'introduction, revenait toujours la même image, c'est-à-dire que cet homme, il était dans une voiture qui se dirigeait à fond vers un précipice. Et donc, voilà, sa destination, c'était de s'abîmer dans le précipice. Mais il y avait, alors je pense que c'était un hélicoptère, ou en tout cas, qui venait le survoler. Et bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'accrochait à, je ne sais plus si c'était un trapèze ou bien si c'était à l'hélicoptère lui-même. Il avait le temps de s'accrocher à l'hélicoptère et la voiture continuait et allait se fracasser dans l'abîme, tandis que lui était sauvé, accroché à l'hélicoptère. Et ben cette image-là, je la garde comme étant ce qui se passe lorsque Jésus vient vers nous. Parce que c'est notre destination, nous sommes à tombeau ouvert vers l'abîme, mais ce qui change tout, c'est que si nous pouvons nous accrocher au Seigneur vivant et ressuscité, eh bien nous sommes à nouveau en sécurité. Et nous n'allons pas perdre la vie, mais au contraire, nous allons parvenir à la destination que le Seigneur a prévue pour nous. Ce n'est pas lui qui conduisait l'hélicoptère, mais au moins il était accroché à l'hélicoptère et l'hélicoptère, il savait lui où il allait ensuite le déposer. Voilà, je vous donne cette petite image. Et de temps en temps, comme ça, il y a des situations dans des films d'action où, effectivement, il faut juste changer un peu de position pour être au bon endroit et être ainsi sauvé. Eh bien, Jésus-Christ est mort, ressuscité, vivant, pour que nous puissions recevoir le salut, être délivrés de la mort. Alors, voilà, ce qui est remarquable dans ce passage du livre de chapitre 3 des Actes des Apôtres, c'est que même pour ceux qui l'avaient fait crucifier, c'était encore possible. C'est à vous, premièrement, là ça s'adresse d'abord donc aux Juifs, hein, bien sûr. Ils ne voyaient plus Jésus. Il l'avait fait tuer et il n'avait pas vu ressusciter. Mais un événement miraculeux permettait aux témoins de la résurrection d'attester de la vie glorieuse de Jésus de Nazareth. Et il est temps encore pour eux. Maintenant, d'accord, vous avez fait tout cela, vous avez renié le saint et le juste, vous avez fait mourir le prince de la vie, mais repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est encore possible pour eux. Alors, ce message, bien sûr, suscite la contradiction, mais il est quand même efficace. Nous voyons au chapitre 4, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Si certains persistent dans leur incrédulité, et en particulier là les chefs du peuple, eh bien beaucoup d'autres sont gagnés. Le message de la résurrection triomphe de leur péché. Le message de la résurrection triomphe de leur faute, du fait qu'ils se sont associés à la mort de Christ, qu'ils ont été de ceux qui ont réclamé qu'ils soient crucifiés. Mais ils peuvent encore se repentir. Vous êtes appelés et nous sommes appelés à croire à la résurrection des morts, au prince de la vie. Comprenez-vous que si Dieu l'a rendu à la vie, c'est que sa mort comme un malfaiteur n'était pas juste. Dieu ne l'aurait pas rendu à la vie s'il avait souffert à cause de ses fautes, bien sûr. Mais cette mort était juste la façon dont Dieu prenait en compte votre ignorance et tout le mal qui lui est associé. Parce que dans cette ignorance de Dieu, qui nous est à tous, que nous partageons tous, eh bien se développe le péché, le mal et toutes les mauvaises choses qui jalonnent notre vie. Par la mort volontaire de son Fils bien-aimé, Dieu vous débarrassait de votre péché et vous réconciliait avec lui. Et depuis cet acte, il veut vous offrir la vie. Il veut vous sauver par sa vie. Nous avons été, dit l'apôtre, réconciliés par la mort de Christ et maintenant nous pouvons être sauvés par sa vie. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le Seigneur nous donne la vie. Il ne nous laisse pas dans la mort à cause de nos péchés. Il a réglé ce problème du péché et il nous sauve par sa vie. Il nous donne la vie. Dieu est vivant. La mort, c'est l'événement fatidique, c'est le jugement sur le péché. Et pour chaque humain, elle vient conclure la vie et je dirais sceller l'absence de Dieu, sceller la destinée de l'homme sans Dieu. Et la mort de Jésus de Nazareth à la croix, c'était la même chose, mais pour notre réconciliation, pour que dès maintenant nous passions de la mort à la vie. À celui qui croit et se repent, la vie est assurée. Malgré les fautes qui peuvent encore nous surprendre, que nous devons apprendre à reconnaître, que nous devons combattre, jamais ces fautes n'annulent le fait que notre salut nous est donné, que la vie nous a été donnée en Jésus-Christ. À celui qui croit, le Seigneur, dans la lutte contre le péché, contre le monde, contre la mort, le malin, eh bien, le Seigneur est là pour nous assister. Il est près de nous et avec nous pour nous assister dans nos luttes. Et comment le fait-il ? En plaidant en permanence pour notre pardon. Romains 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Là est notre assurance. La même affirmation est faite dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Déjà les versets 15 et 16. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Et au verset 24 et 25, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Jésus-Christ est vivant auprès du Père afin d'intercéder pour nous. Il est vivant éternellement, il plaide sans cesse à Dieu en vertu du sacrifice de sa vie d'homme parfait au moment de la croix. nous pouvons entrer dans la vie céleste et nous la recevons, nous y marchons sans considération des difficultés, des souffrances, des faiblesses humaines que nous avons pu connaître ou que nous pourrons encore connaître. Nous marchons dans la vie de Dieu. Vous pouvez marcher dans la vie de Jésus-Christ ressuscité pour vous. Et ainsi, vous serez prêt, lorsque la mort interviendra sur ce corps soumis à la vanité, ce corps mortel, vous serez prêt pour la vie avec le Seigneur. Parce que cette vie avec le Seigneur, elle existe déjà. Vous serez débarrassé de l'enveloppe du péché et vous vivrez la vie que le Seigneur vous a déjà donnée par votre conversion à lui. Le Seigneur sera là, vivant, pour vous faire vivre cette vie nouvelle dans sa perfection, dans son absolu, dans l'éternité. Et ce sera réel parce que tout simplement, cette vie, vous l'avez déjà en vous aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Pierre disait comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Je reviens sur cette parole du Seigneur. Celui qui a le Fils a la vie. Aujourd'hui, si vous avez le Fils de Dieu, si vous avez cru que cette mort était vraiment la mort pour le péché, et que Dieu a réglé ce problème et que maintenant il a ressuscité son bien-aimé, alors vous entrez dans la vie de Dieu. Vous avez reçu, vous recevez la vie du Seigneur. Le Seigneur ne fait pas que pardonner vos péchés, il vous donne la vie, cette vie impérissable, cette puissance que l'homme naturel ne peut pas connaître. La puissance de Dieu lui-même qui agit en celui qui croit. Le Seigneur Jésus est le prince de la vie. C'est une vie nouvelle que nous partageons, qu'il partage avec nous, en fait. Amen.